Depuis quelques semaines, nous avons voyagé en Israël. Nous avons parcouru pas mal de kilomètres. Nous avons été dans les villes, dans la plus belle agence de voyage, hein. Nous avons été dans les villes qui ont marqué la vie de notre Seigneur. Et ce matin, nous allons aller en chemin. Mais on va voir que, en fait, la partie voyage de nos disciples n'est pas la partie la plus importante. En tout cas, ce matin, nous serons donc dans le chapitre 24 que nous avons lu tout à l'heure. Et nous serons à Emmaüs, à la découverte de Jésus. Bethléem l'a vu venir au monde. Et vous vous rappelez, les bergers et les mages sont venus et ont été touchés. Et vous avez vu, vous vous rappelez, on avait dit qu'ils étaient partis par d'autres chemins. À Nazareth, on a vu Jésus grandir. On a vu notre Seigneur faire des choses, mais obéir et finalement être rejeté. À Capernaum, on l'a vu accomplir de grands miracles. On l'a vu commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Et à la fin de ce temps, la ville de Capernaum, les, je sais pas comment on les appelait, les Capernaumiens, ont rejeté Jésus, bien que ils aient vu plein de choses. Et Jésus de prononcer la malédiction sur cette ville de Capernaum, dont il ne reste que des ruines. Et puis on a eu la semaine dernière un moment de fraîcheur où Jésus a été avec ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Et on a vu la partie centrale de ce dîner que Marthe et Marie avaient préparé. Moment de communion après la résurrection de Lazare, moment intense avant même, on l'a vu dans le contexte, ce repas pascal qu'il allait prendre avec ses disciples. Moment de communion, moment intense. Et là, nous allons faire 11 kilomètres pour aller dans cette ville d'Emmaüs, à l'ouest de Jérusalem. Les commentateurs ne fixent plus trop où est cette ville. Il y a deux autres possibilités, mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que cette ville d'Emmaüs, à l'époque de Jésus, là, celle qui était nommée, était environ 2 heures de marche de Jérusalem. Sur la carte, on voit la ville d'Emmaüs, ici. Je ne sais pas si sur la voie, ils le voient. Mais en tout cas, on a vu Capernaum, Nazareth, Bethléem, les villes où Jésus a marqué de son empreinte. Ce matin, nous allons donc commencer à parler de la résurrection de Jésus-Christ. La semaine dernière, avant ce repas, il annonçait sa mort et sa résurrection. Et on a laissé un peu les gens dans l'expectative. Mais là, nous sommes dans ces temps où Jésus est ressuscité. Et il est bien de s'arrêter juste quelques instants pour regarder à la résurrection qui était là en fait. Et la première personne à qui Jésus apparaît, reparaît, c'est Marie de Magdala, celle dont il avait chassé les démons. C'est intéressant que, en fait, la première personne n'est pas un de ses disciples. Non? Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi et où ils sont? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils attendent dans leur coin. Le deuxième groupe, c'est encore des femmes qui viennent au tombeau. Dieu, on le verra dans les mois prochains, a fait de grandes choses avec les femmes et fait encore de grandes choses avec les femmes pour l'expansion de son royaume. Et puis, il va apparaître à Simon. Vous rappelez ce Simon qui était prêt à aller partout avec Jésus et qui, devant la peur, a renié Jésus-Christ. Et puis, il apparaît à nos deux disciples de ce matin. Et puis, on le verra tout à l'heure aux 11. Et un Corinthien nous dit qu'il est apparu à Jacques, et puis à 500 frères. Jésus est ressuscité. Et on ne dit pas qu'il est réellement ressuscité. Et là, on a ce matin l'histoire de nos deux disciples, qui, eux, ont du mal. Ils n'étaient pas avec les autres, ils n'ont encore rien. Vous avez vu ? Dans le contexte, on est le dimanche matin. Dimanche après-midi. Jésus est ressuscité. Les bruits courent, la radio inonde les ondes avec le fait qu'on a dû voler le corps. Bien que les disciples, eux, disent « Non, 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 il est ressuscité ». Il apparaît à Simon, à Thomas, aux 7. Et regardez bien, on a l'impression, en lisant le texte, que Jésus est devenu un étranger pour ces deux personnes. Celui dont on entend parler, mais qui finalement, c'était peut-être pas celui qu'on croyait. Finalement, il était peut-être pas Dieu. Finalement, il n'est pas très proche de nous. Laissons, partons. Et on imagine que, vous avez vu sur la carte, que nos disciples, en s'éloignant, tournent le dos à Jésus. Il n'y a pas des moments dans notre vie où le doute, comme l'a partagé notre frère tout à l'heure, vient tellement qu'on dit, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Au verset 13, « Or ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades, 32 kilomètres de Jérusalem. Ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient... » Vous avez vu ça ? « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Il y a des moments où... nos yeux, nos pensées, notre compréhension, on ne peut pas voir les choses. Et il faut que quelqu'un d'autre vienne dans notre vie et dise « Mais tu vois pas clair ? T'as besoin de collir dans tes yeux ou quoi ?» Et là, nos disciples, ils sont là. Eux s'éloignent et Jésus va s'approcher. Jésus a fait une promesse en quittant la terre. Il a dit qu'il serait toujours avec nous. Il a dit qu'il se laisserait trouver par ceux qui le cherchent. Il a dit que dans la difficulté, il serait avec nous, qu'il nous porterait. Il a dit qu'il serait notre soutien, qu'il serait notre consolateur, notre avocat. Tous les jours, vous savez ça ? Tous les jours, le diable, il vient, il fait... T'as vu ton équipe en bas là, c'est tous des poltrons. Et regarde les détails de leur vie, regarde. Mais t'as vu ce qu'ils font ? C'est pas des chrétiens ça. C'est pour eux que t'es mort. Et Jésus dit quoi ? Il dit, j'ai payé pour eux, laisse-les tranquilles. Ah, vous savez ça ? Tous les jours, le diable vient. Tous les jours, ils revendiquent. Ils étaient à moi avant. Et Jésus leur dit, qu'est-ce que t'avais payé pour eux ? Et qu'est-ce que tu leur promettais ? Rien. Moi, je leur ai donné un espoir. J'ai payé pour eux. Jésus s'approche. Leurs yeux étaient empêché de le connaître. Jésus s'approche. Comment essayer de ramener nos disciples à la raison? Comment est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans leur discussion pour qu'ils arrêtent d'être tristes? Et vous avez vu le rapport qu'il donne? Oui, il est bien dit que les femmes l'ont vu, que, ouais, mais enfin tout ça c'est un peu des ragots. Hein. Puis tu sais, les femmes le matin. Les femmes n'avaient pas une bonne place non plus en Israël. Hein. Elles n'étaient pas plus cotées que dans notre monde. Et ils doutent, ces disciples. Et même ils sont tristes. Ils n'auraient pas pu chanter le chant de tout à l'heure. Hein. Ils n'auraient pas pu être dans la joie. S'ils avaient été dans la joie, Jésus, il aurait été surpris. Et que fait Jésus? Alors, il explique. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Vous imaginez l'étude biblique? Ils ont 32 kilomètres à faire à pied. À une moyenne en gros de 10 à l'heure, parce qu'ils marchaient assez vite, plus vite que nous. Et là, Jésus leur fait l'étude biblique du siècle. Le moment incroyable où il va leur dire, mais ces choses-là, vous les connaissez? Vous vous rappelez quand vous lisez ça? On parle d'un Messie promis. Et finalement, il leur enseigne. Quand ils avaient lu l'Ancien Testament, les disciples lisaient l'histoire de leur peuple. Vous savez, on raconte beaucoup d'histoires à propos de Jésus. On enseigne à nos enfants des histoires, non ? L'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, l'histoire de David, hein ? L'histoire de... Et puis on leur raconte aussi l'histoire de Toto. Et puis l'histoire d'un mec. Ce sont des histoires. C'est un peu dur. Hein. C'est pas des histoires qui nous intéressent. C'est la vérité. Et les disciples d'Emmaüs, ils connaissaient l'histoire. L'Ancien Testament, l'histoire du peuple, la gloire du passé, la misère du peuple, la délivrance qu'apporterait le Messie. Ce que Jésus voulait, c'est que celui qu'ils avaient connu, celui qui était annoncé, celui qui se tenait à leur côté, ils puissent le trouver aussi dans l'Ancien Testament. Et qu'il ne soit pas celui qui viendrait, mais celui qui est venu. Et ce qui est intéressant, c'est que ils écoutent, il leur fait l'interprétation et petit à petit, les choses se dévoilent. Alors ils se disent, oh lui il a dû faire au moins 2 ou 3 ans de faculté de théologie, on va le garder un peu avec nous, parce qu'il a l'air d'être efficace. Et le verset 28 nous dit, lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, Jésus sembla vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra et demeura avec eux. On a encore un épisode extraordinaire. Jésus, quand il fait route avec nous, il veut demeurer chez nous. Ça veut dire qu'il veut être dans notre foyer. Ça veut dire qu'il veut être dans notre intimité. Ça veut dire qu'il veut changer ma vie. Vous savez, quand on a des amis, le plus dur, c'est de les faire rentrer chez eux. Ou je sais pas, de les faire rentrer chez nous. Parce que finalement, chez nous, on se dévoile qui on est. À l'extérieur, on peut toujours paraître, hein. Mais quand on est à la maison, on devient un peu plus nous-mêmes. Et ce que Jésus veut, c'est rentrer chez eux, venir avec eux. Mais Jésus, vous avez vu là, il ne force pas. Il dit pas, bon alors, mais il se fait inviter. Il entre pour demeurer chez eux. D'un étranger, il devient l'ami. Celui qu'il fait bon de côtoyer. Vous savez, j'ai ma famille depuis 40 ans, je témoigne. Après, pas tout à fait 40 ans encore, mais ça vient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a des occasions de témoigner avec la famille, il y en a dans ma famille, il vient me voir, il me fait « Oh, tu sais, moi, je suis pas croyant, je pratique rien du tout, mais si un jour je devais pratiquer un truc, ça serait comme toi. » Et je lui dis à chaque fois, écoute, c'est un parrain, hein. Je lui dis, écoute, parrain, c'est bien, mais c'est pas moi qu'il faut regarder. Tu sais que si tu veux assurer ton éternité, c'est pas faire ce que je fais, mais c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que pour l'instant, t'es pas sur la bonne route, et ça lui plaît beaucoup moins bien. Ce que Jésus veut, là, c'est s'approcher, devenir, non pas notre ami, on va le voir tout à l'heure, devenir notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Seigneur, celui qui rentre à l'intérieur de notre cœur. Apocalypse 3:20, on est en train de l'étudier, hein. Voici, je me tiens à la porte. Et vous savez pourquoi il est obligé de frapper à la porte, Jésus ? Dans Apocalypse chapitre 3, dans cette église de Laodicée. Vous n'avez jamais posé la question ? Pourquoi Jésus il frappe à la porte ? Parce qu'il est dehors de l'église. La septième église, hein, du chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, Jésus est dehors. On l'a mis dehors. Et là, il veut rentrer dans leur vie. Et regardez bien quelque chose d'intéressant. Il est invité. Donc on aurait pu lui dire, écoute, mets-toi au fond, on va préparer. On aurait, hein, ils auraient appelé Marthe. Eh bien, parce que apparemment, tu sais bien faire les choses. Et regardez bien, c'est Jésus qui prend la direction du repas. Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent, il demeura avec eux, il entra pour demeurer avec eux, et il bénit le repas et rompt le pain. C'est lui qui devient le maître de cérémonie. Mes amis, c'est pas ça la vie chrétienne. Quand Jésus rentre dans notre vie, c'est lui qui devient notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah ! C'est plus moi qui décide. On a étudié ce matin avec les amis au-dessus dans le livre des Actes. Pour ça que j'étais en retard, c'est mon excuse. Quand Paul, l'apôtre Paul, a pris la commande de sa première équipe. Il a pris ses deux premiers associés avec lui. Il vient de se séparer d'avec le grand patron Barnabas. Il a créé sa propre équipe. Et il dit, maintenant, on va aller à droite. Et le Seigneur, il te fait, non. Bon, alors, je vais aller à gauche. Et le Seigneur, il dit, non. Bon, je vais où? Et il attend la réponse du Seigneur. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que ses disciples, ces deux personnes qui étaient pour qui Jésus était l'étranger, qui finalement le laisse rentrer dans leur maison, Jésus prend les rênes. Et finalement, de cette discussion tendue où ils se plaignaient, où ils étaient abattus, où ils avaient toute une liste de choses, de reproches, d'histoires. Ah, tu sais, mon pays. Ah, tu sais, mon peuple. D'un seul coup, Jésus est là et c'est lui qui, à l'intérieur de la maison, leur dévoile la vérité. Il rompt le pain. Au lieu de s'asseoir à table comme un invité, il prend la place de l'hôte. C'est lui qui bénit, c'est lui qui rompt, c'est lui qui distribue. une attitude qui surprend. Mais lorsque nous pouvons y penser, ses mains percées se tendent vers eux. Ils ont ouvert leur maison, elle devient la maison de Dieu. Maison ouverte, maison de Dieu. Le verset 31 nous dit « Leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. » Ah ! Leurs yeux avaient été empêchés de voir et en cheminant avec Jésus qui s'était approché, qui leur avait expliqué, qui prenait le temps, qui se montre à eux, et il se montrera tout à l'heure encore aux disciples, leurs yeux s'ouvrent. Mais ce n'est pas ces yeux-là qui s'ouvrent, c'est les yeux du cœur. Ah ! Finalement, c'est de toi dont on parle dans l'Écriture. Tu n'es pas celui qui doit venir, tu es celui qui est venu et qui doit revenir. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et regardez une chose extraordinaire, la fin du verset 31. « Mais lui, il devint invisible et disparut. » Finalement, ça y est, ils sont arrivés au point où ils le voient et il n'est plus là. Il partait, il est venu, il ne le voyait pas, il était là, il le voit, il n'est plus là. C'est intéressant ce texte, non? Mais Jésus est là, mes amis. On n'a pas besoin de le voir. Le livre des Hébreux, hein, nous l'annonce, il nous a accompagnés, il est venu sur la terre. Et maintenant, il est au ciel et il va revenir. Mais nous pouvons le voir dans nos vies. Maintenant, il a choisi de faire un tabernacle dans nos vies, de se glorifier dans nos vies, de prendre toute la place, la conduite de notre vie totale, dans nos foyers, là où finalement on aimerait bien se cacher le plus, là où une fois la porte fermée, on se dit maintenant on va pouvoir régler nos comptes. Et quand on commence à régler nos comptes, le Seigneur il dit « Eh, je suis là. Ah oui. Est-ce que tu pourrais nous laisser seuls un petit moment ?» Non. Il n'est pas dit qu'il les quitta, mais sa présence est avec eux. Manger le pain. Ils n'ont pas bu la coupe, hein, vous avez vu là. Ils ont juste rompu le pain. Et Jésus s'est révélé à eux. Ils n'étaient certainement pas avec les 11 quand Jésus a eu le repas pascal. En tout cas, rien ne nous le dit. Mais ils ont reconnu Jésus. Est-ce que c'est notre cheminement de reconnaître Jésus? De reconnaître qu'il a la primauté, qu'il est celui qui a tout fait, qui est celui qui, alors que moi j'étais son ennemi, il a donné sa vie pour moi. Alors que je ne le voyais pas, il se tenait à la porte. Alors que je n'entendais rien, qu'il me parlait de son amour. Et regardez bien ce qui se passe. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent au moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux. Plusieurs choses là. « Notre cœur ne brûlait-il pas ?» Quand la parole de Dieu se révèle, quand on écoute le Seigneur Jésus, n'est-ce pas notre cœur qui change ? Nos idées, nous avions eu l'intention de. Et Dieu a changé, comme l'apôtre Paul tout à l'heure. Et Dieu a changé nos vies, nos directions, nos mentalités. Quand on dit du mal des uns des autres, comme dit la sœur, on fait comme le monde. Quand on n'arrive pas à aimer nos frères et sœurs, la Bible dit, si on n'aime que ceux qui nous aiment, on fait comme le monde. Apprendre. Vous savez que, je l'ai répété vendredi, je crois que je l'avais dit il y a quelques temps dans un message. Vous savez, mes amis, ceux qui sont sauvés, qui sont autour de nous, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ils vont passer l'éternité avec vous. C'est une mauvaise nouvelle parce que si vous n'entendez pas ici avec eux, il va falloir les supporter l'éternité. Donc, la Bible nous encourage à nous aimer les uns les autres sur terre parce qu'on se prépare à quelque chose là-haut. Et si on ne s'est pas mis d'accord, on va avoir des problèmes à long terme. Donc, j'étais pas au courant de ça. Hein. Le Seigneur parle à leur cœur. Il ouvre leurs yeux. Il se révèle. Ils le reconnaissent. Et là, regardez bien. Leur cœur est réveillé. Leurs yeux ouverts. Leur pensée remplie de lui. Quelle est la première initiative qu'ils prennent? Alors qu'ils ont marché tout ce temps vers Emmaüs, ils se disent, c'est pas là qu'on devrait aller, retournons voir les frères. Mes amis, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous touche, il nous amène vers les autres. Dieu ne veut pas d'une relation Robinson Crusoe, vous savez, sur son île avec Vendredi. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Mais Dieu, il a créé l'Église. Et quand on vient à Christ, on a envie de partager avec les frères et sœurs. Quand le 22 mars 1977, un jeune homme a accepté Christ dans sa chambre, dans un petit village, tout seul dans sa chambre, il aurait pu garder ça secret, parce que sa religion, c'était une religion secrète. Relation avec Dieu dans mon cœur, ça c'est mon business, c'est mon affaire. La première des choses qu'il a fait le 23 mars, c'était d'aller voir les autres. Et de dire, cette fois, je suis comme vous. Jésus est entré dans ma vie. C'est ça la vie chrétienne. De pouvoir partager avec ma nouvelle famille. Avec ceux que Dieu aime, tellement qu'il a donné sa vie. C'est l'église locale? Non. Si chacun reste chez soi, nous laissons le diable nous dire, c'est pas la peine d'aller voir les autres. Puis tu sais, les autres, ils sont différents de toi. Et puis tu les comprends pas. Puis t'as vu ce qu'ils disent les autres, t'as vu ce qu'ils font les autres. Laisse tomber. Et chacun reste chez soi. Puis on a créé ce magnifique appareil, vous savez, cet appareil, je suis en contact avec quelqu'un, un frère en Christ en Chine. Or, on a une communion entre nous, c'est formidable. J'ai pas de communion avec lui. Dans le sens communion. J'ai une relation internet. Mon pont, c'est Christ et lui. Mais si je veux avoir une vraie communion avec lui, il faut que je sois en contact avec lui et que je fasse quelque chose pour lui. C'est ça la communion. La communion, c'est pas être assis les uns à côté des autres et se moquer des autres. La communion, c'est faire quelque chose. C'est acte 2 qui le dit, acte 5 qui le dit. L'église au départ était visible parce que chacun prenait soin les uns des autres. Pas une personne, toutes les personnes. Il devient leur maître. Et regardez bien, une nouvelle chose, ils arrivent vers les autres. Et finalement, ils sont prêts à annoncer une grande nouvelle. Et la première des choses qu'on leur annonce, c'est que Jésus est ressuscité. Pierre l'a vu. Pourquoi le texte nous mentionne que Pierre l'a vu? Parce que Pierre, c'était celui qui avait renoncé à Jésus. Celui qui avait blasphémé. Celui qui s'était mis sur le flanc. Et là, les versets 45 à 49, Jésus va leur ouvrir l'intelligence. Il a ouvert leurs yeux, il a ouvert leur cœur, et maintenant il ouvre l'intelligence. Il a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit pour quoi faire? Pour que nous puissions nous rappeler des choses que Jésus a faites, de ce qu'il a enseigné. Et Dieu a donné à l'Église des enseignants pour enseigner, pour qu'on grandisse ensemble. pour qu'on échange ensemble, pour qu'on soit bien ensemble. Et finalement, ils ont leur premier rassemblement. Ennemis, adversaires, amis, enseignants, maîtres, rédempteurs. Voilà le cheminement des amis d'Emmaüs. Jésus a promis, dans Jean 16, qu'il allait donner à chacun les moyens de comprendre l'Écriture. En fait, ce que les disciples comprennent, c'est que la tombe était ouverte. Que la maison des disciples était ouverte. Que leurs yeux se sont ouverts. C'est tout le chapitre 24, hein? Que les Écritures ont été ouvertes, que les lèvres se sont ouvertes, que l'intelligence a été ouverte, et finalement, le verset 51, si vous le lisez, les cieux se sont ouverts. Vous avez vu le cheminement ? La tombe, la maison, les yeux, les Écritures, les lèvres, l'intelligence, le ciel. C'est Dieu qui fait ça, non? C'est pas nous, mes amis. Nous nous méritions là, mort, et Dieu nous a donné la vie. Pour qu'on puisse glorifier Dieu, pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse se côtoyer, pour qu'on puisse s'aimer, pour qu'on puisse s'apprécier. Comme des êtres précieux aux yeux de Dieu. Il est au milieu d'eux. Comme il disait cela, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que là, regardez la première des choses que Jésus dit quand il vient voir son groupe. C'est pas, je signale pour ceux qui suivent un peu le texte que probablement les versets 45 et 49 ne sont pas chronologiques. C'est-à-dire que c'est certainement, ce passage-là n'est pas chronologique par rapport au reste forcément. D'accord ? Parce que sinon ça met des événements très courts le dimanche après-midi. Et il nous semble que c'est un petit peu décalé, puisqu'il y aura en même temps l'annonce de l'envoi pour l'évangélisation, et on pense que c'est beaucoup plus. C'est juste pour ceux qui suivent la cohérence du texte. Les Écritures étaient voilées, maintenant elles sont ouvertes. Ceux qui cherchaient de l'histoire cherchent maintenant le Christ. Ceux qui partaient de l'autre côté viennent vers ceux que Dieu aime. Mes amis, n'est-ce pas là un chemin merveilleux de découvrir ce Jésus qui est venu naître dans la crèche, qui a grandi comme tous les autres, qui a accompli un ministère extraordinaire, qui a été volontairement donné sa vie, qui a passé ses derniers moments avec ses proches amis et qui finalement vient une fois ressuscité parler à son peuple et s'adresser à ceux qui finalement sont peut-être les déçus de la vie, ceux qui ont une idée, une histoire entendue, mais à qui Dieu ouvre le cœur. Et quand il se présente à eux et dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez et voyez. » Ce même Jésus qui précédemment avait mangé avec eux, qui avait mangé après la résurrection, celui qui avait amené, et là nous avons un passage avec un Jean, c'est dans l'évangile de Jean, le même jour, hein, il y a Pierre qui finalement a un peu l'idée des disciples, il se dit, après tout, hein, détendons-nous, allons à la pêche, et il emmène ses amis pêcher, et la nuit, il ne peut rien pêcher. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Jésus, c'est lui qui va pourvoir au repas avec ses 153 poissons. Comme pour les disciples, comme pour ceux qui étaient loin, Jésus donne ce qui est nécessaire à notre vie. C'est ce Jésus que nous avons besoin de réaliser. Pas un Jésus historique, pas des histoires. C'est beau les histoires, mais si c'est sorti du contexte, ce sont des histoires qui ne tiennent pas les unes après les autres. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi, depuis 10 ans, on dit, dans le monde évangélique international, qu'il y a un grand danger parce que 70% des enfants de chrétiens sortent de la vie chrétienne. 70% ne suivent pas la foi des parents. C'est impressionnant, non? Pourtant, ils connaissent plein d'histoires de la Bible. Ils connaissent plein d'histoires, n'est-ce pas? Ils connaissent pas Christ. Et ils ne voient pas forcément les vies transformées à la maison. Ce n'est pas des interdits, c'est des ouvertures. Alors peut-être pour l'instant, ils sont empêchés de voir. Mais notre promesse, notre héritage, c'est que si tu crois, c'est Acte 16 qui dit, si tu crois, tu seras sauvé. Ça ne veut pas dire que Dieu va tout faire. Ça veut dire qu'à partir du moment où il me donne un dépôt, il me le confie pour que je le donne à mes enfants quand je me lève, quand je me couche, quand je serai en voyage, dit Deutéronome 6:6. Et regardez bien cette question que Jésus y pose, verset 38. Il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes viennent? C'est intéressant, à chaque fois que Jésus vient, il faut « Ah !» Jésus. Vous savez? C'est intéressant quand on fait des bêtises. Vous savez? Et qu'on se dit, pourvu que personne ne me voit. Et d'un seul coup, il y a la porte qui s'ouvre. Moi, j'ai l'impression, à chaque fois que Jésus vient, les disciples, c'est un peu ça. C'est « Oh là là !» Et j'ai l'impression que c'est un peu ça dans notre vie. Hein. On est présent avec Jésus, mais quand il vient un peu trop près, on fait « Attends, regarde pas de trop près, parce que c'est un peu le bazar. Regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. » Alors, il leur ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. Jésus est celui qui nous a promis, mes amis, qu'il, s'il entrait dans notre vie, il ferait tout ce qui est nécessaire. On apprend dimanche après dimanche des versets bibliques qui nous enseignent les promesses de Dieu, la promesse de la Bible. 52 passages de l'Écriture, c'est un défi. Mais c'est pour pas retenir nos paroles, mais retenir la promesse de Dieu. Et ses disciples, ces deux disciples, avaient besoin d'entendre. Parce que leurs yeux étaient aveuglés. On peut venir à l'église tous les dimanches et avoir nos yeux aveuglés, mes amis. On peut avoir des pots de saucisson, des écailles, mais ne toujours pas voir Christ. Juste au moment où Dieu dit, il va falloir que je t'éclaire. C'est le même Jésus que nous avons vu de Bethléem à Nazareth, à Capernaum, à Emmaüs. C'est celui qui est glorifié. Notre bonheur, c'est que nos trésors sont enfermés dans une personne, qui n'est pas pour une génération un docteur présent et un seigneur vivant, après toutes les générations subséquentes, un docteur passé, un présent, un seigneur mort, mais il est un maître et un seigneur présent et vivant à jamais. Est-ce que c'est notre Dieu? Est-ce que nous sommes comme ce peuple d'Emmaüs qui, dimanche après dimanche, témoignons que Dieu fait des miracles, mais qui finalement, disons, quand même, ça ne m'intéresse pas? Sommes-nous de ce peuple qui finalement aspire à ce que Dieu rentre dans nos vies, mais qui gardons la porte solidement fermée? Un chanteur du nom de Charles Roda, dans les années 70, a écrit ce chant que j'avais entendu par la bouche d'un serviteur de Dieu qui est gravement malade aujourd'hui. Et il chantait ceci, c'est sur le « J'aime l'Éternel », le 126, pour ceux qui le chercheront. « De Bethléem à la croix, de la crèche à Golgotha, de ma misère à ma joie, il n'y a que Jésus. Ô Jésus, ton amour, oui ton amour pour moi, est si grand qu'il remplit tout mon cœur. Cet amour qu'il m'a donné, je voudrais le partager. Ne veux-tu pas l'accepter et avec moi chanter ?» Quand Jésus a touché ses deux disciples, ils l'ont fait savoir. Ils ne se sont pas cachés, ils ne sont pas restés à Emmaüs dans leur petit village. Ils sont retournés voir les 11 et leur dire « Regardez, ça y est, Jésus nous a ouvert les yeux. » Mes amis, dimanche après dimanche, des décisions se prennent. Dimanche après dimanche, Dieu casse des briques, casse des murs. Est-ce que Jésus est visible dans nos vies? Est-ce que c'est quelque chose que nous gardons dans le secret? Quelque chose qui ne regarde pas les autres? Si les autres le savaient, peut-être ma vie serait en danger. Jésus est celui qui a changé nos vies, qui nous a fait changer de route, comme les mages, comme les bergers. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, au verset 16, il est dit sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, il a été prêché parmi les nations, il a été cru dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Nous avons entendu un mystère ce matin. Comment des aveugles ont retrouvé la vue? Comment des gens qui se détournaient de Jésus, qui finalement quittaient le chemin, étaient revenus à Christ? Alors, ce matin, j'espère que Dieu va parler à nos cœurs. Et que peut-être si des amis ont ce sentiment d'être sur le chemin, sur le mauvais chemin, si Dieu est encore leur ennemi, alors ils pourront être dans la joie. Ma question à la fin de ce culte, c'est qui est Jésus pour vous? Vos yeux sont-ils empêchés de le voir? On a des lunettes des fois, hein? Vous avez vu notre frère, il quitte ses lunettes pour lire. Est-ce que nous sommes en chemin? On attend les explications, on n'est toujours pas convaincu. Mais je vous rappelle que ce chemin, il partait à l'opposé. Il ne s'approchait pas de Christ. Est-ce que vous avez invité Jésus chez vous? Chez moi, ça veut dire dans ma vie de tous les jours. Pas mon dimanche, pas quand je suis avec les chrétiens, mais chaque jour. Dans mes peines, dans mes difficultés. Vous a-t-il ouvert les yeux du cœur, hein? Comme dans la première épître aux Thessaloniciens. Est-ce que vous aimez vous joindre aux autres? Parce que finalement, les autres, vous pensez qu'ils n'ont pas d'intérêt. Vous a-t-il ouvert l'esprit pour que vous compreniez l'Écriture? Et le dernier verset de notre texte disait qu'ils étaient chaque jour dans le temple, louant Dieu et proclamant sa parole. Voilà ce que Dieu propose. C'est un grand mystère, hein? Il n'y a que lui qui peut faire ça dans nos vies. Alors on va baisser nos têtes. Et on va essayer de réfléchir à savoir qui est Dieu dans ma vie. Un ami? Un rédempteur? Un enseignant, ou finalement mon Seigneur et mon Maître. C'est facile d'entendre des histoires. On en a peut-être entendu toute notre vie. C'est facile de connaître l'histoire de Jésus. Mais est-ce que vraiment Jésus, vous l'avez invité dans votre vie? Un jour, vous lui avez dit, je n'ai rien à t'offrir. Ce que je veux, c'est prendre cette vie que tu me donnes. Et Seigneur, cette vie que tu me donnes, je veux la partager avec les autres. Déjà avec tes enfants, dans la joie, dans la persévérance, dans l'amour, dans la vraie communion. Et puis, que nous soyons capables de montrer à ceux qui nous entourent l'amour de Jésus-Christ. Alors peut-être vous êtes sur ce chemin d'Emmaüs, vous marchez à contre-courant, vous êtes éloigné, vous n'êtes plus convaincu. Jésus n'est même plus votre ami, il est devenu cet étranger. Est-ce que quelqu'un est sur ce chemin? Ou finalement ce matin, Jésus lui dit, Jésus s'approche de lui, d'elle. Et commençant par les Écritures, il lui montre tout ce que la Bible dit. Y a-t-il quelqu'un ce matin déjà qui est sur ce chemin et qui, comme l'a témoigné notre frère tout à l'heure, aimerait revenir vers Jésus, se laisser approcher? Ou est-ce que finalement vous êtes celui dont Jésus est l'ami, mais il n'est pas le maître? Il est celui que j'accompagne, qui m'accompagne de temps en temps. Mais vous ne l'avez pas invité dans votre maison. Vous avez besoin que Dieu ouvre votre cœur et votre intelligence, afin qu'il partage et qu'il vous donne les choses qu'il a promises. Et là encore, je pose la question. C'est une invitation que Jésus fait chaque dimanche. Il dit, si tu veux que je vienne chez toi, invite-moi. On peut prendre toujours l'exemple de Zachée, hein. Zachée, je viens chez toi. Mais Zachée est un contre-exemple. Jésus frappe à la porte. Si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, il entre chez nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin pour qui une décision s'impose de dire, Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mes difficultés, dans mes combats. Seigneur, sur ce chemin d'Emmaüs, je suis un peu comme Cléopas, l'un de ses disciples. Et j'ai besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Oui. Que Dieu vous bénisse. Oui. 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 Alors, je ne le fais pas d'habitude, mais ce matin, on a lu que ceux qui avaient pris cette décision, qui avaient eu leur cœur ouvert, ils étaient allés voir les 11. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas gardé ça dans leur cœur. Ils étaient venus voir les autres. Alors ce matin, je vais juste demander à ceux qui ont levé la main. Ils l'ont pris devant Dieu. Ils l'ont pris avec Dieu. Et ils veulent juste manifester à ceux que Jésus aime, aux autres, que ce matin, ils prennent un engagement pour que nous puissions les accueillir, pour que nous puissions les aider, pour que nous puissions prier pour eux. Comme les disciples d'Emmaüs, je ne vous demande pas de venir devant, mais juste là où vous êtes, vous qui avez levé la main, de vous lever pour que nos frères et sœurs puissent vous identifier, prier pour vous et pour que vous puissiez avoir un contact avec eux. N'ayez pas honte, c'est ce que Jésus a fait dans votre cœur. Si vous avez levé la main, vous vous levez et vous dites, voilà, ce matin je prends une décision, c'est Jésus qui est dans ma vie et j'ai besoin de votre aide. Seigneur Jésus, ce matin dans ta famille, tu as travaillé des cœurs. Tu as permis que ta parole ne pénètre pas sans effet. Et Seigneur, nous voulons vraiment accueillir ces frères et sœurs, les aider, les entourer, prier pour eux, prier avec eux, marcher avec eux dans ton Église, Seigneur. C'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui es notre maître. Et Seigneur, nous voulons en prendre soin comme toi tu prends soin de nous. Seigneur, que nous soyons une Église d'accueil, une Église qui prend soin. Merci en tout cas parce que ta parole ne revient jamais sans effet. Bénis ces frères et sœurs, Seigneur. Entoure-les, aide-les dans tous les domaines de leur vie, Seigneur, et que ton Église grandisse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.